Mais parce que je ne pense pas que je vais pouvoir faire le tour de la question en une seule soirée. Il y aura d'autres enseignements durant le mois de novembre au sujet du thème que nous avons choisi. Ce thème, c'est le baptême de l'Esprit, l'Esprit Saint et les charismes et les dons spirituels, comment les pratiquer, comment avancer. Donc voilà, donc quelque chose qui veut être très pratique. Mais avant d'être pratique, il faut quand même qu'on pose des bases. Voilà. Et donc ce soir, je vais essayer de poser quelques bases sur le Saint-Esprit, sur le baptême de l'Esprit, etc. Alors c'est sûr que vous allez dire, mais ça, je connais déjà. Mais peut-être laissez-vous imprégner par ce qui est dit. Alors je vous le rappelle que nos enseignements Focus Bible, c'est quand même un aller-retour, c'est-à-dire que vous avez le droit de m'interpeller. Si je n'ai de poser des questions ou de me rectifier, parce qu'on est tous ensemble pour construire quelque chose, hein, voilà, j'ai pas la science infuse et toute la connaissance, je ne l'ai pas. Je ne peux que partager mon expérience et ma petite connaissance de la parole de Dieu. Et je crois que c'est formidable qu'on puisse s'échanger comme ça, les uns par les autres, d'accord? Voilà. Donc voilà. Donc vous pouvez m'interrompre, poser des questions. Si on peut répondre, on répond. Si on ne peut pas répondre, eh bien, on cherchera et je vous donnerai une réponse ultérieurement. Voilà. Alors, je vais vous citer deux livres qui m'ont servi pour préparer cette étude biblique. Bon, c'est des gros bouquins, mais je vous conseille de vous l'avoir dans la bibliothèque quand même. Voilà. Donc, c'est Théologie systématique de Ren Grudem. Donc, c'est un Américain. Mais c'est écrit en français, hein, c'est traduit en français. Voilà, donc c'est une théologie systématique, c'est-à-dire que c'est classé par sujet, par thème. Donc, la perspective de ce théologien américain, c'est qu'il est charismatique. Donc, c'est très rare de trouver une théologie systématique faite par des charismatiques. Et donc, moi, je vous conseille de vous l'avoir dans la bibliothèque. Voilà. Et puis, quelque chose de plus facile, et ceci pour les jeunes, puisque vous êtes là en assez grand nombre, c'est aussi un bouquin qui est un petit peu pavé, mais qui est vraiment formidable parce que ça pose des questions et ça donne des réponses. Et donc, ça s'appelle Pour une foi réfléchie. Et donc, c'est des théologiens français qui sont d'origine française et qui sont d'origine évangélique, hein, d'accord? Alors, il y a l'ancien pasteur de la Combe des Oiseaux, Monsieur Henri Cobat, qui a écrit dans ce bouquin. Et moi, donc, je le conseille parce que c'est écrit dans un style très jeune, il y a des images, enfin, vraiment, c'est formidable. Donc, ayez ce bouquin aussi. Théologie pour tous, vous voyez? Alors, ce qui est formidable dans ces deux bouquins, ce que j'ai trouvé de bien, c'est qu'ils sont écrits dans un esprit de paix, hein. Que l'on soit évangélique ou que l'on soit charismatique, c'est écrit dans un souci de paix et d'écouter les uns et les autres. Et c'est comme ça qu'on va vivre un petit peu aussi cette soirée, c'est de pouvoir écouter les uns et les autres, que ce soit les évangéliques ou les charismatiques. voilà. Lorsque je me suis converti, c'était en 1975, je vous l'ai déjà dit, ça fait quand même, ça fait assez longtemps. Il y avait ce mouvement qu'on a appelé le mouvement charismatique qui soufflait, je dirais, dans tous les pays de l'Europe et aux États-Unis, et qui ont touché toutes les franges de la population chrétienne, ce soit les grandes églises traditionnelles, l'église réformée, l'église catholique, etc., les orthodoxes, où on redécouvrait cette notion du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit était Dieu lui-même, une personne vivante qui agissait aujourd'hui. Voilà. Et donc, moi, je me suis converti dans ce milieu et dans cette mouvance charismatique. Et puis, c'était la période où on était regardés, les charismatiques, par les évangéliques comme pour des gens bizarres. Hein? Et aujourd'hui, c'est plus comme ça. Mais aujourd'hui, je dirais, il y a la paix dans le monde évangélique et dans le monde charismatique. Il n'y a plus la guerre théologique qu'il y a eu dans les époques, il y a 30 ans, 40 ans, où on se regardait un petit peu en chien de faïence, on se définissait, moi je suis charismatique et moi je suis anti-charismatique. Maintenant, c'est plus comme ça dans le monde chrétien et c'est tant mieux. À Nîmes, particulièrement, où nous sommes dans une pastorale qui mélange des pentecôtistes, des charismatiques, des évangéliques, on vit vraiment dans une ambiance, je dirais, du Saint-Esprit, toute simple, en respectant les uns et les autres et les pratiques et les piétés des uns et des autres. Alors, je tenais à démarrer cette étude biblique et ce thème en disant il n'y a plus de guerre par rapport au Saint-Esprit. Et je dirais, même si les piétés sont différentes dans les milieux évangéliques, il y a aussi cette attente de la mouvance de l'Esprit, même dans les milieux évangéliques. Et je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir vivre ça en ce moment. Alors, nous allons débroussailler le chemin. Nous allons avoir encore deux autres focus Bible durant le mois de novembre. Et il me semble que ce serait bien de parler d'abord en préalable et de ne pas forcer les étapes. Donc nous allons prendre le temps. Alors, je ne vais pas revenir ce soir sur la personne du Saint-Esprit. On a eu des messages, des prédications le dimanche matin sur la personne du Saint-Esprit. Je pense que nous sommes tous convaincus que le Saint-Esprit n'est pas une chose, hein, qu'il n'est pas chosifiable, mais qu'il est vraiment une personne, même si on le décrit en termes de vent, de feu, il est quand même une personne avec une volonté, il est Dieu lui-même avec des sentiments, voilà. Donc on ne va pas revenir dessus, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire qu'il est une personne. Personne, hein, une des trois personnes de la divinité, de la Trinité, hein, voilà. Donc il est Dieu lui-même, il est Dieu le Saint-Esprit. Pas une force, pas une puissance, pas une chose que l'on coupe en deux, mais vraiment une personne. Voilà. Alors on va continuer, je ne reviens pas là-dessus. Je dirais, chaque personne de la Trinité a un rôle et une spécificité qui lui est propre. Hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas confondre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont Dieu chacun, okay, mais on ne peut pas les confondre, ils ne peuvent pas être confondus. Le Père a une activité spéciale, le Fils a une activité spéciale, le Saint-Esprit a une activité spéciale. Okay. Alors quel est, je dirais, le rôle du Père? Qu'est-ce qu'il manifeste, le Père, dans la création? C'est lui qui est, je dirais, à l'origine de la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est lui qui va envoyer le Fils, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Hein, et donc, on voit que le Père, je dirais, son rôle spécifique, c'est plutôt, voilà, son rôle spécifique, c'est la direction, c'est l'appel. Et si on pouvait donner un sentiment qui va avec le Père, on va dire l'amour. Le Père va avec l'amour, ok ? Est-ce que ça va pour tout le monde ? Le Fils, lui, il est lié à quelque chose d'autre. Le Fils, c'est celui qui vient nous racheter. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils, dans l'ordre du salut, il est celui qui nous fait connaître le Père. Il est celui qui vient donner sa vie en rançon pour tous. Hein ? Donc le Fils, lui, il a un rôle spécifique. C'est lui qui est l'auteur de notre salut. Et c'est pour ça que nous l'aimons, de la même manière que nous aimons le Père parce qu'il nous aime, nous aimons le Fils parce qu'il a été l'auteur de notre salut. Alors, quel est le rôle de l'Esprit ? Quel est le rôle du Saint-Esprit ? Au Fils est associée la grâce. Hein ? Au Fils est associée la grâce. Personne n'a jamais vu le Père. Dieu le Fils, qui était dans le sein du Père, l'a fait connaître, et par lui, nous avons reçu grâce sur grâce. Hein, grâce sur grâce. Le Fils donne la grâce. Mais lorsqu'on parle du Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, son œuvre spécifique du Saint-Esprit, c'est, je dirais, c'est de nous appliquer le salut à notre vie personnelle. Il y a eu un salut qui a été accompli par le Fils, il y a 2000 ans, maintenant un petit peu plus, 2016 ans. Mais le Saint-Esprit, lui, il applique le salut à nos vies. Il applique le salut à nos vies. Et le mot qui est lié au Saint-Esprit, c'est le mot communion, la communion du Saint-Esprit. Parce que c'est par lui que nous avons communion avec le Père et communion avec le Fils. Hein ? Voilà. Donc l'œuvre spécifique du Saint-Esprit, c'est l'application du salut à nos propres vies. Et on va dire, peut-être plus spécifiquement encore, on va dire que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de manifester la présence active de Dieu dans le monde, et plus particulièrement dans l'Église et par l'Église. Manifester la présence active de Dieu dans le monde, plus particulièrement dans l'Église et par l'Église. Et par exemple, dans les premiers versets de la Genèse, hein, le chapitre 1, les versets 1 et 2, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, etc. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Je le cite de mémoire, mais je crois que je me trompe. La terre était un chaos, elle était vide, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu, tournoyait au-dessus des eaux. Hein. Et donc, on voit dès le premier verset de la Genèse que le Saint-Esprit est en activité dans le monde. Hein. Et le verbe en hébreu qui est, dans cette traduction, c'est tournoyer, dans d'autres versions, c'est il voltigeait, dans d'autres versions, c'est encore il se mouvait. Dans l'idée du Saint-Esprit, il y a toujours le mouvement. Hein. Il est le mouvement, il est celui qui plane, qui bat des ailes sur la surface de la terre. Il est en mouvement, il est en relation avec le monde. Dans l'Ancien Testament, plutôt dans le Nouveau Testament, on l'a déjà dit le dimanche matin, il est le remplaçant de Jésus. Hein, et Jésus va le dire comme ça, il dit « Il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi est-ce qu'il serait avantageux qu'il s'en aille ?» Pour que le Saint-Esprit... Vas-y, allez-y. Pour que le Saint-Esprit... Pour... Voilà. Et quelle est la différence entre le Saint-Esprit et Jésus ? C'est que le Saint-Esprit, lui, il reste. Il reste. Il reste. Il reste continuellement à nos côtés. Hein ? Le Saint-Esprit reste. Le livre de l'Apocalypse résume l'histoire du salut ainsi. Dans le dernier chapitre, non, l'avant-dernier, Apocalypse 21, chapitres 3 et 4, il nous est dit qu'il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux, et que Dieu lui-même habitera au milieu des êtres humains. Que Dieu lui-même habitera au milieu des êtres humains. Et donc, dans le livre de l'Apocalypse, en fait, c'est la promesse qui nous est donnée, qui nous est dévoilée de l'habitation de Dieu parmi les hommes. N'est-ce pas extraordinaire ? Le Saint-Esprit est appelé les arts ou les prémices. C'est lui qui nous permet de vivre de manière a priori cette présence de Dieu dans notre quotidien. Ok ? Ça va ? Je vous fais comprendre ça ? Il est la manifestation de la présence a priori qui va être accomplie lorsque le Seigneur va revenir, lorsqu'il y aura ces nouvelles terres, ces nouveaux cieux. C'est pour ça que nous avons reçu les prémices, les arts du Saint-Esprit. Ça, c'est 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22, pour ceux qui prennent des notes, chapitre 5, de la même épître, 2 Corinthiens 5, verset 5. Les arts de l'Esprit, les prémices du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient, il manifeste la présence de Dieu. Et c'est ce que nous voulons, n'est-ce pas, avoir la présence de Dieu. Alors, quatre aspects de l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit va fortifier, le Saint-Esprit va purifier, le Saint-Esprit va révéler, le Saint-Esprit va unifier. Ok ? Ça va être un petit peu ce que je vais débrouiller un petit peu ce soir avec vous. Donc, ces quatre aspects. Le Saint-Esprit va fortifier, le Saint-Esprit va purifier, le Saint-Esprit va révéler, le Saint-Esprit va unifier. Voilà. Le Saint-Esprit fortifie. Un premier sous-point du Saint-Esprit fortifie, c'est qu'il donne la vie. La Bible attribue à l'Esprit de Dieu tout ce qui a vie. Par exemple, Job 33, si vous avez votre Bible, on peut tourner, mais bon, je l'ai aussi en référence, donc ne cherchez pas. L'Esprit de Dieu m'a créé, c'est Élihu qui parle et qui parle à Job, Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Dieu puissant m'anime. Idem pour la vie animale, psaume 104, verset 29, où il nous est décrit que l'Esprit de Dieu donne la vie à tout être vivant et aux animaux. Ouais, okay. Et lorsque l'Esprit de Dieu se retire, alors c'est la mort. Il donne la vie, et pas simplement cette vie physique, mais aussi au moment de la nouvelle naissance, au moment de la conversion. Le Saint-Esprit qui applique le salut qui nous est acquis par Jésus-Christ à la vie du croyant, il donne la vie à notre esprit. Au moment de la conversion, il donne la vie à notre esprit. Maintenant, on a des ordinateurs. Des fois, les ordinateurs tombent en panne. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On reboot l'ordinateur. On le remet avec une mise à jour. En fait, le Saint-Esprit nous reboot sur un autre logiciel. C'est un reboot de la nature spirituelle de l'homme. Nous étions morts par nos offenses. Il nous rend à la vie. Nous étions morts par nos offenses. Il nous a rendus à la vie. Éphésiens 2, verset 5. En fait, au moment de la nouvelle naissance, nous sommes branchés à une nouvelle histoire, qui est celle du Christ. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait, par ce qu'on appelle la régénération, cette nouvelle naissance. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, on va le lire. Alors, Jean chapitre 1, nous naissons de Dieu. Donc c'est le chapitre 1, à partir du verset 9. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde, elle était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle. Mais le monde ne l'a jamais connue, elle est venue chez elle, les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous fait naître à cette nouvelle naissance. Lorsque Jésus discute avec Nicodème au sujet de cette nouvelle naissance, il dit ceci, il faut que l'homme naisse d'eau et d'esprit. Il faut que l'homme naisse d'eau et d'esprit. D'où la question de Nicodème. Peut-on naître une seconde fois ? Peut-on rentrer dans le ventre de notre mère et naître une seconde fois ? Lorsque le Saint-Esprit vient à l'intérieur du cœur humain, il fait naître à une nouvelle vie. Il nous reboot. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il va dire, vous êtes devenu une habitation de Dieu en esprit, vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui habite en vous, c'est le Saint-Esprit. C'est pas extraordinaire, ça ? Donc, il fortifie, il donne la vie, il fortifie en vue du service. Alors, dans l'Ancien Testament, on voit fréquemment que le Saint-Esprit équipait des personnes en vue d'un service particulier. Par exemple, dans Deutéronome, chapitre 34, verset 9, Josué, fils de Nun, était rempli d'esprit de Dieu, de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Moïse lui avait imposé les mains et Josué avait été équipé par l'esprit d'un esprit de sagesse pour pouvoir diriger à la suite de Moïse le peuple qui était nombreux. 34, verset 9. Deutéronome 34, verset 9. Les juges, Gédéon, Jephté, j'ai pris que ces deux-là comme exemple, il y en a sûrement d'autres, sont aussi revêtus de l'esprit de Dieu en vue de leur mission. Juges 6, verset 34, je vous laisse en référence. Lorsque Samuel choisit un roi, il va choisir d'abord Saül, va lui faire l'onction de la royauté, et il est marqué que l'esprit de Dieu est venu sur Saül au moment de son onction, et que même son esprit fut changé. Et chez Saül, c'est manifesté de manière très bruyante. Il a eu une prophétie, il a prophétisé, il a été avec la foule des prophètes qui étaient là, il a retrouvé ses ânesses, enfin bon, vous lirez l'histoire si vous voulez. Mais chez Saül, lorsque le Saint-Esprit est venu sur lui, ça a décoiffé. Voilà. Et puis, Dieu l'a investi de la royauté, il a été rempli de l'Esprit de l'Éternel pour devenir roi, hein, pour qu'il puisse accomplir sa mission de roi. On voit que sa mission de roi, eh bien, il a failli à sa mission de roi. Et à partir de ce moment-là, c'est marqué que l'Esprit de l'Éternel se retira de lui. Hein. Donc, un équipement qu'il a perdu au cours de sa royauté. Après, Samuel est appelé à aller vers David et à loindre aussi d'huile. Et il est marqué aussi que l'Esprit de l'Éternel fut sur David à partir de ce moment-là et qu'il resta tout le temps, à la différence de Saül. Mais alors, chez David, eh bien, il n'y a rien qui s'est passé. Pas de prophétie, il n'a pas eu de manifestations prophétiques, il n'a pas eu des choses extraordinaires qui s'est passées. Il a continué à être le petit berger qu'il était jusqu'au temps où le Seigneur l'a appelé vraiment à la royauté. Comme quoi, on ne peut pas trop faire, je dirais, de catalogue. Lorsque le Saint-Esprit vient, il se manifeste d'une manière ou d'une autre. Hein? Oui.
Le Saint-Esprit, il va sur Saül. Et comme tu as dit, à un moment donné, parce qu'il faillit, il se retire. David, il faillit, il ne se retire pas. Et avant, tu as dit que quand on reçoit le Saint-Esprit, ben, il manifeste la présence de Dieu dans notre vie de manière perpétuelle. Et dans le cas de Saül, il est parti.
Oui. Alors, effectivement, alors, je dirais, ça, ce sont des exemples de l'Ancien Testament. Alors, je ne sais pas si tu étais là quand Richard a parlé, ou c'est peut-être toi, Christophe, ou c'est peut-être Laurent, je ne me rappelle plus, qui a parlé lorsqu'on a fait le carrefour sur les psaumes. Et bon, un des trois a dit « David est le seul des deux à avoir dit « L'Éternel est mon berger et mon Seigneur ». C'est Richard qui l'a dit. Et donc, Saül n'a jamais dit que Dieu était son Dieu. Tandis que David a eu cette relation particulière avec Dieu. Alors, c'est vrai que les deux ont fauté, et David a fait une faute incroyable, adultère, meurtre, etc. Mais lorsqu'il y a eu le moment de la repentance, lorsque Nathan lui a décrit son péché, il a été quand même saisi de repentance, a demandé pardon au Seigneur. Ce que Saül n'a pas fait. La venue de l'Esprit dans l'Ancien Testament et la venue de l'Esprit dans le Nouveau Testament, il y a quand même une différence. Voilà. Notre Seigneur fut aussi rempli du Saint-Esprit. Hein, c'est marqué dans Luc 4, verset 1. Après son baptême, il est marqué que l'Esprit l'a rempli. Et c'est même le Saint-Esprit qui le pousse dans le désert. Et lorsqu'il va commencer son ministère dans la synagogue à Capernaum, il va citer la prophétie d'Ésaïe en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi », etc. « Il m'a appelé pour annoncer une bonne nouvelle », etc. Lorsque les pharisiens viennent voir Jésus, ils lui disent « Mais c'est par le diable, c'est par le démon que tu chasses les démons. C'est par le diable que tu fais des miracles. » Jésus va répondre à cela et il va dire « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Jésus chassait les démons, guérissait par l'Esprit de Dieu, alors qu'il était Dieu lui-même. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, parce que ça va me dépasser, ça va nous dépasser. Hein ? Oui ? Ah, est-ce qu'il était régénéré par le Saint-Esprit ? Salomon, est-ce que le Salomon a-t-il été reçu ? Il avait-il reçu le Saint-Esprit ? Oui, il a été oint du Saint-Esprit. Est-ce qu'il l'a gardé jusqu'à la fin ? Ça, je ne pourrais pas te le dire. Christophe ? Certains psaumes, certains passages. Oui. Tout à fait. Voilà.
Une onction spéciale, c'était la sagesse de Dieu. On a reçu ça toute sa vie, donc ça n'est pas lui.
Oui, tout à fait. Il a reçu donc quelque chose de la part de Dieu. Alors c'est vrai qu'à la fin de sa vie, enfin plutôt dans le courant de sa vie, il s'est détourné et il a servi les idoles, enfin les idoles de ses femmes et de ses concubines. Mais c'est vrai, comme dit Christophe, quand même, il a écrit quelques textes dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Ecclésiaste qui dit « Reconnais-le dans toutes ses voies », la fin, c'est ça comment c'est que le Seigneur va te regarder dans toutes tes voies. Donc peut-être. Hein, peut-être. Alors le Saint-Esprit a aussi équipé les disciples en vue du ministère du témoignage. Hein. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Hein. Vous serez mes témoins. Le croyant de base, je veux dire, enfin c'est pas croyant de base, Timothée, hein, c'était quand même un disciple qui suivit l'apôtre Paul, il disait, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais tu as reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Hein. Et donc on voit que le Saint-Esprit avait équipé Timothée pour son ministère. Je vous rappelle tout à fait la différence entre les apôtres avant la Pentecôte et les apôtres après la Pentecôte. Avant la Pentecôte, ils sont dans la chambre haute, en train de trembler de peur, etc. Lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils sont de manière hardie, armés pour le témoignage, et ils n'ont pas peur d'annoncer l'Évangile. Et donc on voit qu'il y a une différence, et ce qui fait la différence, c'est qu'ils ont reçu l'Esprit-Saint. Hein ? Ils ont reçu l'Esprit-Saint de manière totalement renouvelée. Il équipe aussi l'Église en vue du ministère de l'Église. Il va donner des ministères, il va distribuer des dons. Les dons en grec, c'est les charismata, les charismes, d'accord ? Ou alors, on va dire aussi les dons de grâce. Hein ? C'est-à-dire des dons qui vont manifester la grâce de Dieu et montrer sa présence au monde. Pourquoi est-ce que l'Église, il y a des charismes au milieu de nous ? C'est parce que Dieu désire montrer sa grâce. Dieu désire montrer sa grâce. Il est significatif que lorsque l'apôtre Paul parle des dons, il va parler de l'Église comme un corps, hein, et comme le corps de Christ. Donc, c'est-à-dire l'organisme, et non pas l'organisation, l'organisme qui va montrer la présence de Dieu au monde. Hein, qui va manifester Jésus-Christ au monde. Vous êtes le corps de Christ. De la même manière que Jésus a marché corporellement, de manière incarnationnelle dans le monde, l'Église est appelée aussi à montrer ce que Dieu est. Et Dieu nous équipe au travers des dons du Saint-Esprit, au travers des ministères qu'il donne. Donc 1 Corinthiens 12, verset 11, etc. Donc vous lirez à la maison. Il aide le croyant dans la prière. Il fortifie le croyant dans la prière. Nous ne savons pas quoi demander, mais le Saint-Esprit en nous pousse des soupirs inexprimables. Il nous aide dans la prière. Second point, le Saint-Esprit purifie. Il est le Saint-Esprit, Saint-Esprit. Hein ? Saint-Esprit. C'est-à-dire que lorsqu'il vient dans le croyant, sur le croyant, eh bien, il va faire le ménage. Et on ne peut pas vivre avec le Saint-Esprit tout en menant une vie de patachon. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit va être soit éteint, soit attristé. On en parlera tout à l'heure. Mais lorsque le Saint-Esprit vient à l'intérieur d'un homme ou vient sur un homme, Il purifie. C'est, je pense, à mon avis, cette métaphore du feu dans Matthieu 3, verset 11. Si vous voulez, on va le lire parce que c'est assez important. C'est Jean-Baptiste qui parle et il parle de Jésus qu'il ne connaît pas tout à fait encore. Et il dit, il vient quelqu'un qui est bien plus puissant que moi. Moi, je vous baptise dans l'eau pour un changement radical, pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de lui ôter ses sandales. Lui, il vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Il a sa fourche à la main, ou sa pelle. Là, sa fourche, ça fait penser au diable à chaque fois que je lis ça. Il a sa pelle à la main, il va nettoyer son air, il va recueillir son blé dans la grange, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Hein ? Et donc, on voit qu'il prend l'image du Saint-Esprit, il vous baptisera dans l'Esprit Saint, et l'image qu'il emploie, c'est aussi de feu. Et le feu, alors certains ont pensé que le feu, c'était une plus grande puissance que le baptême de l'Esprit. Mais à mon avis, vu le contexte de ce texte, ce n'est pas du tout ça. Il va voir, lorsque le Saint-Esprit vient, il va te remplir, mais en même temps, il va te purifier, parce que le Seigneur va te nettoyer. Il va enlever la balle du bon grain. Hein. Il va enlever tout ce qui est brûlable en toi. Hein. Il va faire le ménage. Alors lorsqu'on dit « Seigneur, viens Saint-Esprit », et lorsqu'on le chante « Viens Saint-Esprit », eh bien, il faut s'attendre aussi à ce qu'il fasse le ménage dans nos cœurs. Hein, qu'il fasse le ménage et qu'il sépare ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Voilà. Si on ne lui dit pas « Seigneur, viens faire le ménage », on passe à côté de quelque chose de son action. C'est lui qui nous fait grandir dans les désirs de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous fait grandir dans le désir de Dieu. Le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, qui fait de nous le temple de Dieu, eh bien, il veut aussi nous transformer. Vous savez, l'apôtre Paul parle de cette guerre spirituelle qui existe à l'intérieur de nous. Il y a les désirs du Saint-Esprit, et puis en même temps, il y a les désirs de la chair. Et les désirs de l'Esprit font le combat avec les désirs de la chair. Et on sera toujours comme ça. Et alors l'apôtre Paul, il disait, mais n'écoutez pas les désirs de la chair. Plutôt, soyez conduits par le Saint-Esprit. Suivez les désirs du Saint-Esprit. Et en suivant les désirs du Saint-Esprit, vous accomplirez la pensée de Dieu. Vous accomplirez la volonté de Dieu. Ça, c'est dans Galates, chapitre 5, verset 16. Soyez conduits par l'Esprit de Dieu. Hein ? Alors, c'est pas ça, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, c'est pas tellement pour nous émoustiller émotionnellement. C'est vraiment pour faire le ménage. Ok ? On va le lire, Galates 5, verset 16. Je dis plutôt, marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. La chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, alors vous n'êtes plus sous la loi. Les œuvres de la chair sont manifestes, inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, disputes, passions jalouses, fureurs, ambitions personnelles, divisions, dissensions, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Il ne donne pas toute la liste. Quant aux fruits de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Le Saint-Esprit est venu mettre sa vie en nous, il fait le ménage en nous, il nous met les désirs de l'Esprit et nous sommes appelés à le suivre pour, je dirais, éradiquer tous les désirs de la chair. Alors je pense que toute notre vie, on aura ce combat intérieur. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais plus nous écoutons le Seigneur, et plus on abandonnera tout ce qui est œuvre de la chair, telle que nous sont décrites dans le texte. Le Saint-Esprit révèle, ça c'est le troisième point. Le Saint-Esprit révèle, bon, je dirais déjà, c'est lui qui a poussé les apôtres et les prophètes à écrire la parole de Dieu, d'accord ? Il a révélé à ses apôtres, à ses prophètes, l'Écriture sainte. C'est poussé par le Saint-Esprit que les apôtres et les prophètes ont écrit de la part de Dieu. C'est un verset qu'il faut connaître, 2 Pierre 1, verset 21. Poussé par le Saint-Esprit, les prophètes et les apôtres ont écrit de la part de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre dans une église, lorsqu'il agit au travers des dons, des charismes, il manifeste la présence de Dieu aux hommes. Et les gens qui viennent, un petit peu par là, peut-être par hasard, ils se disent, quoi ? Dieu est vraiment présent au milieu d'eux. Lorsque le cœur des gens qui viennent sont dévoilés, lorsqu'il y a des paroles prophétiques qui disent telle ou telle chose, les cœurs sont touchés et la présence de Dieu se révèle au travers de cela. 1 Corinthiens 14, verset 25. On veut plus de présence de Dieu dans notre Église, plus de la présence de Dieu dans notre Église, plus de la présence du Saint-Esprit dans notre Église, pour que les gens puissent voir. Non, pas que nous sommes meilleurs, mais que lui est présent au milieu de nous. Que lui est présent au milieu de nous. Le Saint-Esprit révèle et il guide et il dirige les croyants. Dans Galates, on l'a lu, « Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit ». Je crois que le Saint-Esprit veut vraiment nous conduire dans la vie. Il nous donne des voies à suivre. Il va peut-être conduire même de manière très spécifique, parce que le Saint-Esprit y parle. Lorsque l'Église primitive était réunie, à un moment donné, c'est marqué comme ça, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas, Barnabas et Saül, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » On voit que le Saint-Esprit a dirigé l'Église primitive pour envoyer Barnabas et Saül. Lorsque l'Église a pris une décision aussi, dans Actes 15, verset 28, c'est Jacques qui dit « Le Saint-Esprit et nous avons décidé. » On voit que le Saint-Esprit n'est pas bon, c'est pas la chose, c'est vraiment une personne qui parle. Une personne qui parle et qui veut diriger notre vie. Alors, soyons à l'écoute. Il nous révèle en quoi encore le Saint-Esprit ? Il nous révèle et il nous donne l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre en nous, qui nous donne l'assurance de notre salut. 1 Jean 4, verset 13, on ne va pas le lire. Il nous donne l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est lui qui va venir nous éclairer cette parole, parfois de manière, je dirais, extraordinaire. Moi, ça m'arrive souvent que dans la nuit, j'ai telle ou telle pensée sur un texte que je venais de lire que je ne comprenais pas. Et je pense que ça arrive à beaucoup de monde, que le Saint-Esprit... Mais bon, pour cela, déjà, il faut que je lise la parole de Dieu. Donc, c'est Saint-Esprit et parole de Dieu sont toujours liés ensemble. Et souvent, j'ai dit, mais pétard, mais c'est ça. J'ai une compréhension que le Saint-Esprit me donne de manière extraordinaire, comme il le fait, comme il sait le faire. Il éclaire sa parole lorsque on la lit. Il est celui qui nous fait connaître le Christ. Il nous révèle le Christ. Il nous rappelle les paroles que Jésus nous a données, que nous venons de lire. Quatrièmement, le Saint-Esprit, il est source d'unité. Ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque le Saint-Esprit vient dans Acte 2, il crée une nouvelle communauté. Les disciples qui sont là, qui sont au nombre de 120, auparavant, ils étaient en train d'attendre quelque chose, le Saint-Esprit vient sur eux, et on dit que à la Pentecôte, l'Église est créée. Que l'Église est créée. Il y a une naissance d'une nouvelle communauté. Et cette nouvelle communauté Nous sommes, en tant qu'Église, appelés à conserver l'unité que nous donne le Saint-Esprit. Nous sommes, chacun d'entre nous, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons été rebootés sur une nouvelle histoire. Chacun d'entre vous, vous avez été rebootés à une nouvelle histoire. Nous sommes devenus des frères et des sœurs. Nous sommes dans la communion du Saint-Esprit. Et nous sommes appelés à conserver cette unité que donne le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 3. Conserver l'unité. Ah, je vous suggère, mais on va le lire ensemble. 1 Corinthiens 12. Parce que c'est un texte qui va être lu plusieurs fois durant ces temps où on parle du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, sur les dons spirituels. Alors j'ai une version, j'aurais pas dû prendre cette Bible-là, ça m'énerve, mais bon, c'est pas grave. Pour ce qui concerne les pratiques spirituelles, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez des non-juifs comme les autres, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous certifie que personne, en parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit anathème à Jésus, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur sinon par l'Esprit Saint. Il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre de la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par l'unique Esprit. À un autre la capacité d'opérer des miracles, à un autre celle de parler en prophète, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. C'est dans un seul esprit que tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas une seule partie, mais une multitude. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », il n'en ferait pas moins du corps, pas moins partie du corps. Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », elle n'en ferait pas moins partie du corps. Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient une seule partie, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a une multitude de parties et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire au pied « je n'ai pas besoin de vous ». Bien au contraire, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, ce sont nos parties les moins décentes qui sont traitées avec le plus de décence, tandis que celles qui sont décentes n'en ont pas besoin. En fait, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que toutes les parties du corps s'inquiètent de la même façon les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie du corps est glorifiée, toutes les autres se réjouissent avec elle. Vous êtes le corps du Christ, vous en faites partie, chacun pour sa part. Et on va s'arrêter là. Moi, je vous conseille de le relire chez vous, hein, tranquillement, ce texte qui est assez important, qui nous parle avant tout, je dirais, d'unité du corps. Hein ? Oui ?
Comment on doit lire le verset 10 ?
Alors. Bien. Quelle est ta question ?
Est-ce que quelqu'un peut dire « j'ai le don de faire des miracles » ?
Alors, on parlera peut-être de ça quand on parlera pratiquement sur les dons spirituels. Hein. Parce que le Seigneur distribue les dons à chacun comme il veut. Ça ne veut pas dire que quelqu'un peut dire « je possède le don de ceci » ou « je possède le don de cela ». Hein. C'est lui qui va te donner ce don-là, précisément au moment où tu en as besoin. Et ça ne veut pas dire parce que tu l'as exercé une fois que tu vas l'exercer tout le temps après. Hein ? Voilà. Donc la pratique des dons spirituels, le Seigneur va te donner par exemple de prier pour un malade et cette personne va être guérie. C'est un don de grâce que la personne reçoit, que tu as manifesté cette grâce de Dieu pour lui. Mais après, ça ne veut pas dire que tu vas aller imposer les mains à toutes les personnes qui sont malades et que toutes les personnes malades seront guéries. Hein ? Donc il n'y a aucun don à part celui du parler en langue où c'est, je dirais, un don personnel, un don individuel. Tous les autres dons nous sont donnés pour l'utilité commune au moment où on en a besoin. Hein ? À quoi ça sert le don de guérison s'il n'y a pas de malade ? Hein ? C'est le corps qui en a besoin. C'est le corps qui en a besoin. Ok ? Pour moi, c'est pas recevable. Alors, il y a certaines personnes qui ont plus la foi pour guérir, pour amener à la guérison. Mais moi, je suis particulièrement contre, mais peut-être vous n'êtes pas de mon avis. Hein, ça, c'est chacun a le droit de dire. Hein, et moi, c'est pour moi ça. Pour moi, je pense pas qu'il faut aller à un endroit pour être guéri. Hein. Je crois qu'il faut venir à Jésus-Christ. Il faut venir à Jésus-Christ pour être guéri. Et le don de guérison peut se manifester par le plus petit, le plus humble des frères dans l'assemblée. Et peut-être pas par le pasteur bien en vue. Oui, c'est... Je pense. Attention, je dirais, à l'idolâtrie de l'homme. Hein, à l'idolâtrie de l'homme. Voilà. C'est un exemple de l'Ancien Testament, mais bon, c'est pas grave, je vais le citer. Les Israélites ont été guéris de la morsure du serpent avec le serpent d'airain. Hein, le serpent d'airain qui était élevé. Quiconque regardait le serpent d'airain était guéri. Ce serpent d'airain a servi une fois dans une situation particulière. Puis ce serpent d'airain a été placé plus tard dans le temple de Jérusalem et est devenu une idole. Parce qu'on regardait au serpent d'airain pour être guéri de manière, je dirais, idolâtre. Voilà. Moi, je me méfierais toujours d'un homme. Allez là-bas, ça c'est le ministère de Dieu pour guérir. Ok. Ça, c'est ma personnalité. Voilà. Et il peut s'avérer que le Seigneur guérisse par ces gens-là. Et gloire à Dieu. Hein, voilà. Oui, bien sûr. J'ai pas compris. Jeannie ? C'est la guérison. Est-ce que la prophétie vient au moment de la conversion ou par le baptême ? Le baptême d'eau, tu me parles, ou le baptême du Saint-Esprit ? Le baptême du Saint-Esprit. Bon, on en discutera tout à l'heure. Hein ? On en discutera de tout à l'heure. Okay ? Garde ta question, je vais essayer d'y répondre. Voilà. Donc, dans ce chapitre qu'on vient de lire, 1 Corinthiens 12, il nous est dit que les dons sont donnés, c'est pour le bien de tous, pour le bien du corps. Donc ça, c'est le Saint-Esprit va toujours conserver l'unité, a toujours en vue l'unité du corps, hein, et pour le bien de tous. Nous avons vu ça. Nous avons vu qu'il y a complémentarité des dons spirituels. Hein. Il y a plusieurs membres, mais un seul corps. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous avons reçu quelque chose d'un petit peu spécifique quand même. Voilà. Mais c'est pour le bien de tous. C'est aussi le respect des différences. Le Saint-Esprit va agir à faire en sorte que même si nous sommes différents les uns des autres, et tant mieux que nous sommes différents les uns des autres, le Saint-Esprit va faire en sorte que nous soyons un. L'œil ne peut pas dire au pied, j'ai pas besoin de toi. Hein ? Ou on a besoin que des yeux ici. On n'a pas besoin que des yeux ici. On a besoin de l'ouïe, on a besoin du nez, on a besoin des pieds, on a besoin des mains. Hein ? Le verset 31, je l'ai pas cité. Alors, moi, dans ma version, c'est « Passionnez-vous pour les meilleurs dons de la grâce ». Je ne sais pas comment vous avez chez vous. Passionnez-vous. Aspirez aux dons les meilleurs. Hein. Ah oui. Ou recherchez les dons les meilleurs. Voilà. Donc c'est comme ça que moi, c'est dans l'explication que j'ai donnée à Jean-Marie, le meilleur don, c'est celui dont le frère a besoin. David ? Oui. Je pense que le Saint-Esprit te permet d'être en communion avec tous les autres frères et sœurs qui sont dans le monde, même si tu n'es pas localement et corporellement avec eux. Hein, voilà. Mais le Seigneur te donne la grâce de vivre cet instant-là. Mais dès que tu sors de prison, ou tiens, va chez les frères. Oui. Non. Je pense que le Seigneur, il y a des situations, c'est vrai, où on est seul. Est-ce qu'on est toute l'Église à nous tout seul? Le Seigneur te donne la grâce de vivre tout ce que tu as besoin seul. Oui. Je dirais que c'est quand même assez marginal. Voilà. J'ai même maintenant dans les prisons, il y a des aumôniers, il y a des cultes qui peuvent être faits. Oh, merci, c'est gentil. En tout cas, ce que je peux dire, et que je répète assez souvent, c'est qu'il n'y a aucun homme qui est un homme universel. C'est-à-dire qu'à moi tout seul, je ne représente pas le Seigneur. Je montre une facette du Seigneur autour de moi, mais je ne représente pas Dieu. C'est ensemble qu'on peut manifester tout ce que Dieu est. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réflexion par rapport à ça? Je dirais qu'un chrétien tout seul ne devrait pas être tout seul très longtemps. Voilà. Et qu'il faut chercher la communion fraternelle. Voilà. C'est juste. Donc le Saint-Esprit est source d'unité. Alors c'est pas étonnant qu'entre le chapitre 12 et le chapitre 14, où il nous parle des dons du Saint-Esprit, on trouve le chapitre 13, qui est le chapitre que tout le monde connaît, que tous les amoureux connaissent, et que tous les amoureux mettent sur leur faire-part de mariage au sujet de l'amour. Hein ? L'amour est présent lorsque le Saint-Esprit agit. Hein ? Voilà. Autre manifestation de l'unité, c'est que le Saint-Esprit va toujours rechercher l'utilité, ça on l'a déjà dit, mais aussi l'ordre, hein, que ça se fasse dans l'ordre. Lorsque le Saint-Esprit agit, il n'y a pas de désordre en fait. Des fois ça peut déranger un peu, mais en même temps ça amène de l'ordre, hein, ça construit. Tout à l'heure nous avons lu aussi les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Et vous avez vu que l'apôtre Paul insiste au niveau des fruits de la chair sur les divisions, sur les jalousies, sur les ambitions qui divisent, etc. Et que, au contraire, lorsque le Saint-Esprit amène le fruit de l'Esprit chez quelqu'un, il amène la paix, il amène la joie, il amène l'amour, l'esprit de service, etc. Hein ? Donc le Saint-Esprit est vraiment celui qui unit la communauté des croyants. Hein ? Il est vraiment celui qui amène le corps de Christ à développer toute la présence de Dieu. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres, et vous savez que c'est le Saint-Esprit qui déverse l'amour du Père sur nous. C'est à l'amour que vous avez les uns sur les autres, pour les uns pour les autres, que les gens vont reconnaître qu'il y a Dieu au milieu de vous. Le Saint-Esprit manifeste la présence de Dieu. Alors, que devons-nous faire par rapport à son œuvre? Alors, certains lui résistent. D'autres lui mentent. D'autres ne reconnaissent pas son œuvre. Alors, il y a plusieurs textes qui nous parlent de notre relation avec le Saint-Esprit, qui sont un petit peu d'ordre négatif. Mais je pense que je vais partir du négatif pour arriver au positif. Hein, voilà. Donc, le négatif, donc, lorsque Étienne témoigne qu'il va être lapidé pour le Seigneur, il dit au sujet de ceux qui vont lapider, vous avez toujours résisté au Saint-Esprit. Hein ? Il y a des gens qui peuvent résister au Saint-Esprit, des gens qui se campent sur leur position face à l'œuvre du Seigneur en eux. On peut l'attrister, Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Alors comment est-ce qu'on peut l'attrister ? Par notre péché, oui. Alors là, très spécifiquement, dans Éphésiens 4, 30, si vous avez le texte. Comment est-ce qu'on peut attrister le Saint-Esprit ? Et si on lit le texte juste avant, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il en est besoin, une bonne parole qui soit constructive et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malveillance soit enlevée du milieu de vous. Soyez bons les uns vers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Voilà, on attriste le Saint-Esprit lorsqu'on ne travaille pas à l'unité du corps. Hein ? C'est une manière d'attrister le Saint-Esprit. Hein ? C'est pour ça que j'ai insisté sur l'unité. Le Saint-Esprit unit le corps. Eh bien, si on dit du mal les uns des autres, si on n'est pas bon les uns vis-à-vis des autres, si on calomnie, si on se calomnie les uns et les autres, eh bien, on attriste le Saint-Esprit. Et au contraire, le Saint-Esprit va nous pousser à manifester des paroles de grâce. Les uns vis-à-vis des autres. À voir les choses qui sont toujours positives chez l'autre. On peut l'attrister aussi, on peut l'éteindre. On peut l'éteindre. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Comment est-ce qu'on peut l'éteindre, le Saint-Esprit ? Si quelqu'un l'a. Si on l'empêche, 5 verset 19, c'est marqué « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Hein ? » Examinez tout et reconnaissez ce qui est bien. C'est lorsqu'on a du mépris pour ce qui peut se dire de la parole de Dieu au milieu de nous. On peut éteindre. Puisque le Saint-Esprit et la parole agissent toujours ensemble. On dit, Seigneur, parle-nous davantage. Et puis on ne veut pas écouter la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, on l'éteint. Ou lorsque on ne veut pas entendre une parole prophétique, ça peut se dire, ça peut se faire aussi dans l'assemblée, parce qu'on trouve que la personne qui donne la parole prophétique n'est pas assez digne pour la donner. Je vais vous dire une expérience que j'ai faite, moi, personnellement, où le Seigneur m'a bien repris vertement. J'étais dans une réunion, et puis il y avait quelqu'un qui avait un ministère un peu spécial. Il donnait des paroles de connaissance. Tac, 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 tac. Bon, j'étais là parce qu'on m'avait invité, mais je n'étais pas très bien. Et puis, dans mon cœur, j'ai commencé à critiquer la personne qui était là et qui donnait les paroles prophétiques. Tac, tac, je disais, papa, c'est bidon, etc. Et puis, il m'a interpellé. Il m'a pas dit, toi qui me critiques. Là, j'aurais été mal. Mais il m'a appelé. J'étais au fond, j'étais le dernier, j'étais contre le mur. Je me suis même retourné pour voir s'il n'appelait pas quelqu'un d'autre. Et puis il m'a appelé, et puis il m'a donné une parole qui s'est avérée être très exacte, précise de ce que j'allais faire. Voilà. Et depuis ce jour-là, toutes les paroles prophétiques, qu'elles soient données par un tel ou par un tel, j'écoute, je prends conscience. Ça peut parler, ça peut me parler si c'est m'adresser à moi. Voilà. En tout cas, je ne veux plus les mépriser. Je ne veux plus les mépriser, quelle que soit la personne qui les donne. Hein ? Quelle que soit la personne qui les donne. Oui. Eh bien, lorsque le Saint-Esprit n'éteignait pas, se dire si tu me parles et je t'écoute pas, au bout d'un moment, tu vas plus me parler. Non, ça veut dire que voilà, ça veut dire que le Saint-Esprit, ben, tu vas devenir sourd à sa voix. C'est comme s'il agissait plus vis-à-vis de toi. Et donc, à mon avis, il faut revenir dans la repentance. Seigneur Jésus, voilà, j'ai méprisé telle ou telle parole, je ne t'ai pas écouté quand il fallait. J'ai pris l'habitude de ne pas t'écouter. Pardonne-moi, je veux t'écouter. Voilà. C'est juste que c'est étonnant cette notion d'éteindre, vu que c'est une personne, on n'éteint pas une. Oui, tout à fait. C'est là l'image du feu qu'on éteint, qu'on jette de l'eau, qu'on contrecarre la nature de l'esprit. Qui est toujours celle de l'unité. On peut lui mentir. Ça, c'est bon, acte 5, verset 9. On peut lui mentir. Alors, c'est là lorsque c'est l'apparence qui rentre en jeu dans la vie du chrétien et non pas ce qui est le fond. Bon, c'est Ananias et Saphira, je ne vais pas relire. On lui ment lorsqu'on est simplement dans le jeu de l'apparence, lorsqu'on montre le bon visage que nous sommes, alors qu'au fond de nous, ben, y a des choses qui ne sont pas très chouettes. Voilà. Et on peut pécher contre lui. Hein, chapitre 12 de Matthieu, verset 31. Qu'est-ce que ça veut dire pécher contre le Saint-Esprit ? Eh bien, c'est ne pas reconnaître son action. Et une des actions de l'Esprit de Dieu, c'est de nous pousser à la repentance et à reconnaître Jésus comme son Seigneur. Alors, si on ne laisse pas le Saint-Esprit nous pousser à la repentance, en disant « ça vient du diable », etc., où ça vient de, où c'est nul, eh bien, on ne parvient pas à la repentance. Et qu'est-ce qui se passe si on ne parvient pas à la repentance ? Ben, on n'est pas pardonné, tout simplement. Hein ? Le péché contre le Saint-Esprit, le péché impardonnable, c'est ne pas reconnaître ce que le Saint-Esprit fait. Et donc, ne pas être au bénéfice de son action. OK ? Il y a parfois des jeunes qui viennent et qui disent « J'ai commis le péché impardonnable. Hein ?» Et ils sont tristes. Hein ? Alors, si tu es triste et tu te repens de ton péché, ce n'est pas le péché impardonnable. Le péché impardonnable, c'est le péché dont on se repent pas parce qu'on ne voit pas qu'il y a besoin de repentance. Et lorsqu'on vient et qu'on demande pardon au Seigneur, le Seigneur nous pardonne. Toujours. Quelle que soit la gravité dans ton cœur de ce péché. Voilà, tout à fait. Tout à fait, voilà. Donc en fait, ils n'ont pas reconnu Jésus qui, dans sa bonté, les poussait à la repentance. Hein ? Ils n'ont pas vu le Saint-Esprit qui disait « Voilà Jésus, ça c'est le Seigneur, c'est le Sauveur. » Les pharisiens ont dit non à l'action du Saint-Esprit qui convainc de péché.
Si on vient et qu'on demande pardon au Seigneur, c'est qu'on a été travaillé par le
Saint-Esprit. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors par contre, il y a cette exhortation, ça, on a fini avec les choses négatives, hein. Ça suffit. Mais il y a cette exhortation, par contre, où l'apôtre Paul dit « Soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. » Et non pas simplement une seule fois, mais soyez continuellement remplis de l'Esprit. C'est Éphésiens chapitre 5, verset 18. Soyez toujours remplis de l'Esprit. Alors comment être rempli de l'Esprit ? Vous avez une idée comment on est rempli de l'Esprit ? Hein ? En lisant la parole ? On lui demande, on lui demande. On demande à Jésus, viens me remplir de ton Esprit. Hein ? C'est dans l'évangile où Jésus dit, si un enfant vous demande du pain à son père, il ne lui donne pas un rocher ou autre chose. À combien plus forte raison votre Père vous donnera le Saint-Esprit à vous qui le lui demandez. Hein ? Voilà. Donc on demande au Saint-Esprit on demande à Dieu d'être rempli du Saint-Esprit. D'accord ? Parce que c'est aussi la promesse du Père. Et vous serez rempli de l'Esprit et vous serez baptisé de l'Esprit. C'est la promesse du Père. On va parler de manière un peu plus spécifique maintenant du baptême de l'Esprit. De cette expression baptême de l'Esprit, d'où est-ce que ça sort ? Et en fait, il y a 7 passages dans le Nouveau Testament où on parle du baptême dans le Saint-Esprit. Et puis même, je dirais, ce n'est pas le mot, le substantif baptême qui est employé, c'est le mot baptisé, c'est le verbe qui est employé. Et vous serez baptisé. Matthieu 3, verset 11. Marc 1, verset 8. Luc 3, verset 16. Jean 1, verset 33. C'est les mêmes passages en parallèle, en fait. Hein ? Les 4 passages, c'est les mêmes passages en parallèle. C'est lorsque Jean-Baptiste parle. On a lu le texte tout à l'heure. Donc, Matthieu 3, verset 11, Marc 1, verset 8, Luc 3, verset 16, Jean, chapitre 1 et verset 33. Il vous baptisera du Saint-Esprit ou dans le Saint-Esprit. L'œuvre de Jésus, c'est de vous baptiser dans le Saint-Esprit. Alors, ces 4 passages, ben, nous renseignent pas tellement sur ce que le baptême du Saint-Esprit. Juste, ça dit que Jésus, son œuvre, c'est de baptiser dans le Saint-Esprit. Ok ? Ça, c'est 4 références sur les 7. 2 autres références sont liées à la Pentecôte. Acte 1, verset 5, et acte 11, verset 16. Et acte 11, verset 16, c'est juste un rappel de ce qui s'est passé dans acte 2. Ok ? Alors, on va le lire. Acte 1, verset 5. C'est Jésus qui parle. Donc, comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Voilà. Donc ça, c'est la 5e référence. La 6e référence, c'est acte 11, 16, où ça reprend ce même texte. Donc on ne va pas le lire. Voilà. Donc quel renseignement ça nous donne sur le baptême du Saint-Esprit ? Ça nous renseigne que c'est à la Pentecôte qu'a eu lieu ce baptême dans le Saint-Esprit. Hein ? Le Saint-Esprit, on le voit dans la description de acte 2, le Saint-Esprit descend sur les disciples et il parle en d'autres langues. Hein ? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues. Donc le baptême de l'Esprit, c'est ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Et le dernier verset qui nous parle du baptême de l'Esprit, c'est 1 Corinthiens 12, verset 13. J'aimerais le lire dans une autre version que celle que j'ai. Je ne sais pas ce que tu as comme version, Marc. C'est le semeur, ça ? Il n'y a pas une seconde normale chez quelqu'un ? Une seconde normale. Ça, à Thompson, peut-être. Corinthiens 12, verset 13. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour être un seul corps, avons été baptisés. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Voilà donc la 7e référence sur le baptême de l'esprit. Okay ? Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Pour être un seul corps. Alors, on va parler des... Et vous allez voir que ça, c'est un peu difficile de parler de tout ça. Donc des interprétations de ce qu'est le baptême de l'esprit. Ça va ? Vous êtes avec moi encore ? Vous me donnez encore 10 minutes ? Voilà. Donc, l'interprétation évangélique traditionnelle, c'est le baptême de l'Esprit, ça coïncide avec la conversion. Coïncide avec la conversion, il n'y a pas lieu de distinguer entre le don de l'Esprit lors de la conversion et puis ensuite une autre expérience qu'on appellerait le baptême de l'Esprit. Être chrétien, c'est recevoir le Saint-Esprit. Et si on lit le seul texte de 1 Corinthiens 12, verset 13, ça signifie bien ça. Hein ? Quand est-ce que l'on fait partie du corps ? C'est lorsqu'on est rempli de l'Esprit, lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit. Et à quel moment nous faisons partie du corps ? C'est le moment de la conversion. Oui, au moment de la conversion, baptême de l'Esprit. Ok. Alors, dans la perspective évangélique traditionnelle, rien n'empêche quand même qu'on peut avoir d'autres expériences avec le Saint-Esprit. Ok. Que les évangéliques vont appeler plutôt plénitude de l'Esprit. Ou alors renouvellement, ou alors un réveil. Hein, voilà. Alors, la perspective pentecôtisante ou charismatique, moi, j'ai été élevé là-dedans. Okay ? Le chrétien reçoit le Saint-Esprit au moment de la conversion, mais il faut faire une seconde expérience qu'on appelle baptême dans le Saint-Esprit, avec pour signe initial et qui prouve le baptême de l'Esprit, le parler en langue. Voilà. Le parler en langue est un signe preuve, en quelque part. C'est la preuve que tu as reçu le baptême de l'Esprit. C'est un baptême qui donne la puissance pour le témoignage et qui te permet de vivre une vie de victoire et ça te permet d'avoir une porte d'entrée à toutes les manifestations charismatiques. Donc moi j'ai été élevé dedans, hein. Je me suis converti, donc j'ai reçu le Seigneur, le Saint-Esprit. J'ai marché, mais c'était très rapide. Peut-être 15 jours après, on a prié pour moi pour le baptême de l'Esprit. Hein. Et j'ai parlé en langue. Oui ? Ça, c'est la perspective pentecôtisante. On va dire autre chose après. Vas-y. C'est pas le baptême d'eau, là, qu'on parle. C'est bon, hein. C'est bon, il n'y a pas besoin d'imposition, passage d'imposition des mains. Hein. Voilà. Alors j'ai un peu évolué dans ma pratique et dans ma vision des choses que je vous partage. Alors je vous dis que maintenant tout ça s'est apaisé entre charismatique et non charismatique. Donc même au milieu de nous, on peut avoir des sentiments un petit peu différents. D'accord ? Hein ? Certains vont tenir mordicus qu'il y a une seconde expérience du Saint-Esprit qu'on appelle baptême de l'Esprit. Mais moi, une des inconvénients de la perspective charismatique telle qu'on me l'a enseignée, c'est qu'en fait, on divise les chrétiens en deux classes. Hein ? Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit au moment de la conversion, mais qui n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit, première classe, et ceux qui ont reçu le Saint-Esprit lorsqu'au moment de la conversion, et qui ont été encore doublement remplis de l'Esprit au moment du baptême de l'Esprit. Donc, deux classes de chrétiens. Hein ? Jean-Marie ? Mmh. Mmh. Ceux qui étaient là. Ouais, ceux qui étaient là. Langue des anges, langue mystérieuse, etc. Hein? Ouais. Oui. 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 Si, bien sûr, c'est ma volonté de prier. C'est moi qui parle en langue, c'est pas le Saint-Esprit qui parle en langue. C'est moi qui parle en langue. C'est la personne qui est remplie de l'Esprit qui parle en langue. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te manipule comme un robot pour parler en langue. Si j'avais fermé la bouche, si j'avais resté la bouche fermée, je n'aurais jamais parlé en langue. Okay. Voilà, parce que je le désirais, parce que je l'aspirais, parce qu'il me semblait que c'était bon d'y aspirer. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qui est venu de moi. De l'intérieur, c'est le Saint-Esprit qui me donnait et j'ai ouvert la bouche, c'est sorti. Et j'ai sorti. Voilà. Alors, quel est maintenant... Oui, pardon.
Alors, dans 1 Corinthiens
12, oui.
30,
mmh.
Il y a... c'est une simple question.
Oui.
Une
langue, voilà.
Est-ce qu'il y a des personnes qui ont pu être baptisées du Saint-Esprit et qui ne parlent pas dans la langue ?
Oui. Donc, je vais expliquer ma perspective, la mienne, que peut-être vous allez partager ou pas partager. Donc, j'étais dans une version charismatique pure, pentecôtisant, hein, qui a tout leur honneur. Hein, c'est pas... Mais maintenant, je pense avec l'expérience... J'ai demandé plusieurs fois d'être rempli du Saint-Esprit. Pas qu'une seule fois. Chaque fois qu'il y a pu avoir un appel ou dans une réunion maison, ou moi personnellement, j'ai dit, Seigneur, remplis-moi. On le chante. Remplis-moi tout à nouveau. Remplis-moi tout à nouveau. Dans acte 2, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils sont remplis du Saint-Esprit. Dans acte 4, ils sont encore re-remplis du Saint-Esprit au début du chapitre. Et à la fin du chapitre, ils sont encore re-remplis du Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas qu'une seule expérience. Il y a une multitude d'expériences. Voilà. Et donc, définir le baptême du Saint-Esprit comme l'expérience initiale où on est rempli, je pense que ce n'est peut-être pas tout à fait juste. Voilà. Je pense que dans notre vie, on n'a pas à se satisfaire d'une seule expérience qu'on appellerait le baptême de l'Esprit et qui serait notre titre de gloire. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit en 1975. Et que cela me suffit. Je pense que si je vis de mon baptême de l'Esprit de 1975, eh bien je vais être pauvre spirituellement. Et j'ai besoin de redemander à chaque moment, à chaque instant, d'être rempli ou rempli à nouveau, ou d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. Voilà. En fait, je crois que nous avons besoin de demander au Seigneur de nous remplir chaque fois que nous nous sentons faibles de manière spirituelle. Hein ? Nous avons besoin de ça. À force de côtoyer des évangéliques qui ne sont pas charismatiques, je me suis aperçu qu'ils prient de la même manière que moi. Je me suis aperçu que quand ils prient, ils attendent une réponse de la même manière que moi. Et donc je me suis aperçu qu'ils étaient aussi remplis de l'esprit d'une certaine manière. Ok ? Et que ça ne faisait pas d'eux des chrétiens de seconde catégorie. Ils étaient autant remplis de l'esprit que moi. Sans que pour eux, il y ait une nécessité de parler en langue. Tous parlent-ils en langue. Voilà. Alors, donc, pour moi, j'ai évolué. Je pense que quelqu'un qui demande à être rempli du Saint-Esprit peut parler en langue ou peut ne pas parler en langue. Par contre, ma position, c'est que je vais encourager à s'ouvrir aux dons spirituels. Je vais encourager les jeunes chrétiens pour lesquels on prie pour le baptême de l'Esprit à demander le parler en langue, parce qu'il nous est dit que c'est un don qui est petit, qui est un don personnel, qui est un don qui permet l'édification personnelle, intérieure. Donc, si quelqu'un ne parle pas en langue, peut-être parce qu'il en a peur, parce qu'il dit « c'est moi qui parle en langue, j'ai de l'appréhension, est-ce que je ne me trompe pas ?» Voilà, je vais l'aider à dépasser ces peurs-là. Et je vais lui demander, tu as envie de prophétiser ? Alors les gens disent, oui, j'ai envie de prophétiser, j'ai envie de recevoir un don de prophétie. Mais le don de prophétie, c'est bien plus compliqué que le parler en langue. Vous recevez une pensée et de la part du Seigneur, elle est imparfaite, parce que toutes les paroles prophétiques qu'on peut recevoir sont imparfaites. Mais quelle foi il faut pour ouvrir la bouche et dire « Voilà, j'ai cette pensée de la part du Seigneur. Hein ?» Tandis que le parler en langue, je dirais, il n'y a pas d'enjeu sinon le tien. Et ça te permet de construire ta foi de manifester ta foi. Donc je dirais, le parler en langue, c'est le plus petit des dons, mais c'est aussi la porte d'entrée à toutes les autres manifestations des autres dons. Des autres dons. La porte d'entrée. C'est le chemin. Voilà. Tu parles en langue, c'est juste un petit don. C'est pour toi. mais ça va te permettre d'avancer de manière plus efficace vis-à-vis des autres dons, et en particulier de celui de la prophétie. Ok ? En fait, l'utilité... Vas-y, Christophe.
Régénéré, produit